Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Marion Calais, Julien Cellier, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir, bonsoir Myriam.
Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Deux heures d'infos à vos côtés et à la une, la galère, votre galère à la pompe encore et toujours. La CGT poursuit ses blocages.
Toutefois, de premières lettres de réquisition sont tombées dans une raffinerie SO.
Et pendant ce temps-là chez Total, enfin une discussion CGT direction, dialogue ouvert mais loin d'être fructueux.
Et puis la CGT stoppe aussi le travail pour les salaires dans des centrales nucléaires, la pression monte un peu plus.
Les autres titres de l'actu, Marion.
L'ombre du 49-3 sur l'examen du budget à l'Assemblée. Et puis le sourire d'une championne, Romane Dico, sacrée aux mondiaux de judo chez les plus de 78 kilos.
Moins de sourire chez Kylian Mbappé. Dans un quart d'heure, la suite du feuilleton. Hier soir, on apprenait que le buteur voulait quitter le PSG. Eh bien, on comprend mieux pourquoi Mediapart révèle que le club aurait utilisé une armée de faux comptes pour nuire à sa réputation, la réputation du joueur sur internet. La brigade RTL va tout vous expliquer. 18h15, on parlera de Mbappé avec notre invité Didier Drogba, l'ex-attaquant star. Il remettra lundi le ballon d'or, peut-être, qui sait, à Karim Benzema. Et puis son club de cœur, l'OM, joue ce soir son avenir européen. 18h40, on va défaire le monde, l'info autrement avec Cyprien Signy et compagnie. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu.
Ce soir, on va vous faire découvrir les coulisses d'une station-service. Où est stocké l'or noir? Comment arrive-t-il dans le pistolet? Vous ne regarderez plus jamais une pompe à essence de la même façon. Au menu également, la folle histoire de l'immeuble hanté de Fontenay-aux-Roses et des bougies pour anticiper les vagues de Covid.
À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et Aurélie Arbemont et puis le temps très régulièrement avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain?
Gris et pluvieux sur les deux tiers nord du pays.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et donc 24 heures après, la première réquisition est enfin tombée sur le site Esso ExxonMobil de Port-Jérôme, Gravenchon, c'est en Seine-Maritime.
Après la reconduction du mouvement en début d'après-midi, bonsoir Frédéric Veil.
Bonsoir Marion.
Vous êtes sur place pour RTL. L'un des grévistes a donc reçu il y a quelques minutes l'ordre de retourner au boulot.
Ah oui, c'est ça, c'est fait. L'acte de réquisition que les syndicats attendaient depuis ce matin est parvenu par voie d'huissier. L'annonce, c'est la mine triste et le ton grave que Christophe Aubert de la CGT l'a annoncé il y a une demi-heure à peine aux salariés et aux journalistes qui étaient présents devant la raffinerie.
Donc la réquisition d'Elisabeth Borne vient d'être mise en œuvre chez Essomobile, puisque un huissier de justice vient de remettre à l'instant une lettre de réquisition à un salarié gréviste qui était ici en poste. Et donc il y a une injonction pour lui imposer de travailler sous directive de la direction ExxonMobil, c'est-à-dire qu'il est dans l'obligation d'effectuer des opérations de mouvement d'hydrocarbures. Donc il y a un déplacement probablement via le réseau Trapil vers Gennevilliers et l'ouverture du dépôt libre malheureusement à Esso. Mais dès demain matin, un référé sera déposé pour dénoncer cette réquisition illégale.
Alors, pour être précis, la réquisition s'applique donc aux vannes qui alimentent donc le pipeline qui remplit les cuves d'Exxon de Gennevilliers, c'est en région parisienne. Elle alimente aussi la cuve où les camions-citernes qui stationnent depuis ce matin pourront donc être remplis pour aller directement aux stations-service. Et cela, évidemment, sans délai, puisque désormais, les vannes sont ouvertes ici, à Port-Jérôme.
Voilà, première réquisition donc à Port-Jérôme sur le site Esso ExxonMobil. Au total, sur les 7 raffineries que compte l'Hexagone. 6 sont en grève, les 2 d'ExxonMobil, les 4 de Total Énergie.
Total Énergie, où pendant ce temps-là, pour la première fois depuis le début de la grève fin septembre, syndicats et direction ont discuté.
Au siège du groupe pétrolier à la Défense à Paris, bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
La CGT reçue donc par des représentants de la direction. Alors, soyons clairs, hein, c'est pas une négociation, c'est une simple prise de contact pour l'instant.
Oui, avec cette bonne nouvelle tout de même, la direction et la CGT se sont donc parlé et vu pour la première fois depuis 16 jours, on le rappelle. Mais pour autant, bien la position du syndicat n'a pas bougé d'un iota, comme l'explique Thierry Defresne de la CGT Total.
Non, on n'appelle pas à la levée de la grève. Les grévistes nous ont dit qu'ils ne voulaient pas lever leur mouvement tant qu'il n'y avait pas une proposition sur la table. Et pour l'instant, les indicateurs nous montrent que la direction n'est pas enclin à faire des propositions, y compris des propositions qui seraient de nature à faire lever ce mouvement.
Et pour cause, la direction a d'ores et déjà fait savoir qu'elle n'accepterait pas une hausse des salaires de 10% pour 2022, comme le demande la CGT, et sans proposition concrète, eh bien, la grève continue. Les trois autres syndicats représentatifs qui n'appelaient pas à la grève ont été reçus cet après-midi, un par un. Et la CFE-CGC, le premier syndicat chez Total, indique ce soir que la sortie de cette crise ne pourra se faire que par le dialogue et par la négociation, et précise aussi qu'il n'hésitera pas à prendre ses responsabilités.
Ça discute, donc c'est déjà une première étape, même si ce n'est pas terminé. La CGT Total Énergie, rejointe hein, par ailleurs dans son mouvement par le syndicat FO, non représentatif au niveau du groupe, mais quatrième force hein, dans la branche raffinage pétrochimie.
Alors ce mouvement, il perturbe toujours l'activité de vos stations-service, d'un tiers des stations essence dans le pays. Le gouvernement promet une amélioration très sensible, ce sont les mots d'Olivier Véran, son porte-parole, dans les prochains jours grâce aux réquisitions.
Des grèves donc dans le secteur pétrolier et aussi dans 5 centrales nucléaires, là encore pour des augmentations de salaire.
Et celle de Gravelines dans le Nord, la plus puissante d'Europe de l'Ouest, ça c'est nouveau, va se joindre au mouvement demain. Est-ce que ça pourrait perturber, Marie Garrier, cette fois-ci la production d'électricité?
Alors non, la grève à l'appel de la CGT et FO ne touche pas les réacteurs en fonctionnement qui produisent actuellement de l'électricité, elle touche les réacteurs en maintenance annuelle et les chantiers pour résoudre les problèmes de corrosion. Ce sont les travaux qui sont retardés, ainsi que certains raccordements. Si la grève dure, cela risque d'affecter le calendrier de redémarrage des réacteurs prévu au début de l'hiver, hein, quand on en aura le plus besoin. Le calendrier était déjà très serré et on sait le réseau en tension. Gravelines, vous l'avez dit, rejoint le mouvement, entamé la semaine dernière dans les centrales du Tricastin, dans la Drôme, de Cruas en Ardèche, du Bugey dans l'Ain et de Cattenom en Moselle. EDF a proposé des revalorisations de salaires qui sont pour l'instant jugées insuffisantes par les grévistes. La CGT demande un rattrapage de l'inflation.
Les explications de Marie Garrier pour RTL. Grève dans les raffineries, les dépôts de carburant et maintenant dans le nucléaire. On attend demain matin la réaction de Bruno Le Maire, le ministre au micro d'Amandine Bégaud à 7h40 sur RTL.
RTL Soir.
Il est comme une ombre qui plane désormais au-dessus de l'Assemblée.
L'ombre du 49-3 auquel le gouvernement pourra recourir après l'autorisation donnée ce matin par le Conseil des ministres pour le budget. Donc, possibilité de faire passer le texte sans vote et preuve d'ailleurs des difficultés qui attendent le gouvernement. L'article liminaire a été rejeté cet après-midi.
Marie Mollet, vous êtes à l'Assemblée pour RTL où la question que tout le monde se pose maintenant, c'est quand le gouvernement dégainera-t-il son 49-3 ?
Oui, exactement. L'opposition n'en est même plus à s'offusquer de l'utilisation quasi certaine du 49-3. Peu de suspense. Alors à quoi bon débattre ? Interroge même le communiste Sébastien Jumel.
Nous, discuter, on a beaucoup de plaisir à discuter. Vous savez qu'on aime débattre. Mais en même temps, on n'aime pas débattre pour rien. On n'aime pas débattre dans le vide.
Alors le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a tenté de rassurer en ménageant l'ambiguïté.
Nous avons tout le temps nécessaire et nous prendrons, avec Gabriel Attal, tout le temps nécessaire pour examiner ce budget. Donc s'il faut siéger jeudi, nous siégerons jeudi. S'il faut siéger vendredi, nous siégerons vendredi. S'il faut siéger davantage, nous siégerons davantage. Après viendra un moment où il faudra bien qu'il y ait un budget pour la France.
Jeudi, vendredi ou plus, c'est précisément toute la question. La France insoumise anticipe déjà, Alexis Corbière attaque déjà sur le contenu du texte qui serait adopté par 49-3.
Quel budget alors imposerez-vous par le 49 alinéa 3 ? Vous engagez-vous devant la représentation nationale de respecter au moins les modifications qui auront été occasionnées dans ce budget ?
Après le rejet de l'article liminaire, la majorité accuse l'opposition de blocage et d'obstruction. Ce sera tout le casse-tête de l'exécutif, trouver le bon moment pour justifier l'usage du 49-3. Soyez aux aguets, prévient un conseiller. Si vous voyez débouler Elisabeth Borne dans l'hémicycle, ce sera pour dégainer.
Marie Mollet à l'Assemblée pour RTL.
Allez, petite pause et dans un instant dans ce journal dans RTL Soir, une affaire qui rappelle l'affaire Samuel Paty. Ça se passe dans un lycée du côté de Mulhouse. On en parle juste après ça. Restez avec nous.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir.
Julien Cellier, Marion Calais.
18h10, la suite de votre journal maintenant dans RTL Soir et l'heure de la pédagogie près de Mulhouse après la mise en examen d'une adolescente de 15 ans pour apologie du terrorisme.
Auprès d'un de ses professeurs, au début du mois, à l'issue d'un cours sur la laïcité, la jeune fille a ouvertement fait référence à l'assassinat de Samuel Paty, cet enseignant décapité dans le Val-d'Oise, il y a justement près de 2 ans.
Bonsoir Valentin Boisset.
Bonsoir.
Dans le lycée de la jeune fille, l'affaire a beaucoup choqué et toute la journée, le rectorat a tenter de gérer l'incident.
Absolument. Une équipe a été dépêchée en urgence dans ce lycée ces dernières heures. L'objectif est de débattre avec les autres élèves et les enseignants sur ce qu'il s'est passé. Régler l'incident par la pédagogie, m'a-t-on dit. L'accrochage s'est déroulé lors d'un débat sur la laïcité mené dans un cours de sciences économiques et sociales. À ce moment précis, il est alors question des caricatures de Mahomet et de Charlie Hebdo. Une jeune fille de 15 ans manifeste alors son mécontentement face au sujet évoqué. Elle parlerait de Samuel Paty et ses propos s'apparenteraient à une justification de son assassinat. Elle rentre chez elle, en parle à son oncle. Cet oncle va lui-même revenir en personne devant le lycée, puis va menacer le professeur devant des témoins. L'enseignant a immédiatement porté plainte. L'oncle et l'adolescente sont alors placés en garde à vue. Ce qu'on leur reproche, ce sont des faits d'apologie de terrorisme pour la jeune fille et de menaces de la part de l'oncle qui n'a pour sa part plus le droit de s'approcher de l'établissement.
Valentin Boissé.
18h, 19h15.
RTL Soir.
Plus réjouissant maintenant, elle s'appelle Romane Dico. Elle a 23 ans et elle vient d'apporter à la France son premier titre au championnat du monde de judo en Ouzbékistan dans la catégorie des plus de 78 kilos.
Romane Dico, étudiante en mathématiques, fan de Céline Dion, hein, qu'elle a toujours dans les oreilles à l'échauffement, pareil avant d'entrer en studio. Et grand sourire ici avec Isabelle Langer pour RTL.
Je savais que je pouvais le faire, gagner les mondes aujourd'hui, mais je me dis que j'ai réussi à le faire. J'ai eu un début de compétition compliqué, mais j'ai réussi à me mobiliser, j'ai réussi à m'exprimer mieux, à faire mon judo. Et je me dis juste, purée, je l'ai fait, quoi. Je suis championne du monde.
Et en plus, vous venez en parallèle des études brillantes. Comment vous arrivez à concilier les mathématiques à la Sorbonne et le judo? Ça vous permet justement d'avoir un bel équilibre?
Carrément, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est mon équilibre. C'est vrai que dans mon sac de compétition, j'avais ramené des maths et j'ai fait cours avec ma prof en particulier.
Là, vous êtes en train de me dire qu'aux Mondiaux à Tashkent, vous avez emmené des exercices de maths à faire.
J'ai ramené des maths et même machine à coudre, pour vous dire.
Vous avez cousu quoi pendant les mondiaux?
J'ai cousu plein de tote bags.
Bah là, il faut faire un tote bag championne du monde.
Bah ouais, carrément, j'ai pensé à ça.
Voilà, un tote bag avec Céline Dion pour mettre toutes ses médailles. Hein, parce
Céline
que
Dion avant d'entrer sur le tatami.
Championne du monde, championne d'Europe, triple championne d'Europe et aussi médaillée olympique.
Moi, j'aurais plutôt vu Eye of the Tiger. Non, vous êtes Céline Dion.
Ah bah non.
La Ligue des Champions ce soir.
Oui, la Ligue des Champions, parce qu'il y a l'OM qui joue sur la pelouse du Sporting Portugal. Coup d'envoi 21h.
Vous pensez qu'il passe du Céline Dion dans le vestiaire des Olympiens?
Pas sûr.
Pas sûr, moi non plus.
On met du Céline Dion?
Vous voulez du Céline Dion pour la météo? Allez, Céline Dion pour la météo.
Oui, parce que j'ai pas de très bonnes nouvelles. Bon, sauf pour les terres, parce que c'est vrai qu'on a de la pluie, donc bon, ça fera du bien, mais sinon, le temps sera pluvieux demain. Alors d'abord sur la Bretagne, avec des pluies soutenues et du vent dès le matin, ces pluies, elles vont s'étaler jusqu'au Hauts-de-France. Partout ailleurs, ce sera gris, sauf près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, sur les deux tiers nord du pays, ce sera gris et pluvieux, avec des pluies soutenues qui vont aller jusqu'au Pays de la Loire et les régions centres. Entre le sud-ouest et la façade est, ce sera sec, mais souvent gris. Les températures de 15 à Rouen, 26 à Perpignan, 17 à Nevers, 19 à La Rochelle, 21 à Bordeaux et 23 à Montpellier.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Bon, on va couper Céline Dion et avec la brigade RTL, maintenant on va s'interroger pourquoi Kylian Mbappé veut quitter le PSG. On a un élément de réponse ce soir, quelques heures après les envies de départ affichées du buteur star. On va poser quelques questions pour mieux comprendre à Nicolas Georgerot. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Nicolas, Mediapart révèle que le PSG a utilisé une armée de faux comptes sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour ruiner notamment les réputations de certains de ses propres joueurs.
Oui, et dans le viseur, une agence de communication baptisée Digital Big Brother, immatriculée à Barcelone. Elle va agir durant 3 ans de 2018 à 2020 sur consigne de la direction de la communication du PSG, dirigée alors par Jean-Marcel Ribes, qui a quitté le club fin mai. Le but, créer de faux comptes Twitter influents afin de remplir plusieurs objectifs, notamment promouvoir la marque PSG, organiser des campagnes de dénigrement de la concurrence et établir des contre-feux lors de polémiques qui touchent le Paris Saint-Germain. Exemple, quand Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, critique le budget illimité du PSG, il est insulté, caricaturé. Même chose pour Adrien Rabiot et sa mère, qui gère ses intérêts lorsque le joueur quitte le PSG il y a 3 ans. Ou encore la jeune femme qui accuse Neymar de viol, l'armée numérique monte un dossier contre elle.
En quoi ces révélations concernent Kylian Mbappé ?
En mai 2019, lorsque Mbappé prend la parole au trophée UNFP pour dire, je cite, que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités au PSG ou ailleurs, cette déclaration, selon Mediapart, ne plaît pas du tout en interne. La réplique est lancée contre le joueur avec des tweets pour le dénigrer. C'est en apprenant cela, ces dernières 72 heures, que la colère est montée dans le clan du champion du monde.
Que dit le PSG après cette enquête de Mediapart ?
Dans un communiqué, le club parisien, je cite, dément fermement ces allégations. Le club n'a jamais contracté avec une agence pour nuire à qui que ce soit.
Et le joueur, dans tout ça ?
Rupture, fracture. Pour l'entourage d'Mbappé, comme il a été précisé à RTL, il y a une volonté de nuire à sa personne. Impossible de rester dans ces conditions.
Les explications de la brigade RTL, le feuilleton Mbappé-PSG continue. Donc, merci pour vos explications à Nicolas Georgerot. Kylian Mbappé, tiens, on en discutera avec notre invité dans un instant. L'un des meilleurs attaquants de l'histoire du foot, légende de l'OM, légende de Chelsea. Didier Drogba présentera lundi la cérémonie du Ballon d'Or et donc il remettra peut-être le précieux trophée à un certain Karim Benzema. Il sera avec nous et avec le Ballon d'Or en studio juste après ça, tout de suite.
RTL pour tout comprendre de l'actualité. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, vous écoutez toujours RTL Soir. Et notre invité maintenant, eh bien, c'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du foot. Il va présenter lundi la cérémonie du Ballon d'Or et donc peut-être sacré Karim Benzema. En tout cas, on l'espère. Notre invité est Didier Drogba. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Légende de l'OM, de Chelsea. Vous êtes désormais ambassadeur de ce sublime ballon. Vous l'avez d'ailleurs apporté ici en studio. Ça brille, ça resplendit. Vous savez que toute la France aimerait qu'il revienne à Karim Benzema. Alors, on ne va rien cacher à nos auditeurs. Vous ne connaîtrez pas jusqu'à la dernière seconde, c'est ça, le nom du vainqueur?
Non, peut-être pas jusqu'à la dernière seconde, mais jusqu'au matin de la cérémonie, puisqu'on doit adapter les textes à l'événement qui suivra plus tard.
Donc là, à l'heure actuelle, vous ne savez pas qui a gagné. Pour vous, le maître de cérémonie, est-ce que Karim Benzema est effectivement le favori?
Il fait partie des favoris. On a dû travailler sur une liste de 30 joueurs, 30 potentiels vainqueurs. Au fur et à mesure, la liste a été élaguée pour ne retenir qu'un joueur qui sera le vainqueur. Mais encore une fois, je ne sais pas qui l'a remporté. C'est vrai que c'est un ballon d'or où il y a toujours des surprises. Ouais. L'année dernière, on ne s'attendait pas forcément à la victoire de Léo Messi. Donc il faudrait être devant les écrans pour connaître le vainqueur.
Votre avis, vous, d'attaquant, de buteur sur Benzema, j'aimerais bien l'avoir. Est-ce que sa longévité notamment vous impressionne parce qu'il a 34 ans et on a l'impression qu'il n'a jamais été aussi fort, qu'il continue de progresser, ce qui est assez surprenant et étonnant dans l'histoire du sport, non?
Bah, c'est-à-dire que ce dont il faut se rendre compte, c'est que le football a évolué. Les joueurs ont plus d'accompagnement, ils ont plus de recul sur leur corps, sur comment prolonger la carrière. Et aujourd'hui, être performant à 34 ans, pour nous, joueurs, semble normal. Moi, à 34 ans, je remportais une Ligue des Champions en ayant fait une deuxième partie de saison extraordinaire où physiquement, je me sentais très, très bien. Je pense qu'à ce rythme-là, Karim peut jouer encore jusqu'à 40.
Alors lundi, les ballons d'or masculins, féminins, les meilleurs buteurs, espoirs, clubs seront récompensés. Et puis, il y a un nouveau prix, le prix Socrates. Alors ça, c'est tout nouveau, du nom de ce joueur brésilien qui s'est opposé dans les années 80 à la dictature. L'idée, c'est de récompenser une action caritative menée par un joueur ou une joueuse. Vous qui possédez une fondation pour aider les femmes, les enfants, la santé en Afrique, j'imagine que ça vous tient à cœur aussi, non?
Oui, c'est un prix qui me fait vraiment plaisir parce que il met en avant les qualités extra-sportives des joueurs, chose dont on ne parle pas souvent. Mm. C'est souvent tout ce qui est mauvaise publicité qui est mis en avant, alors que beaucoup de joueurs s'impliquent pour des causes caritatives. Certains le font discrètement, d'autres sont bien plus engagés. Et je suis vraiment content que ce trophée porte le nom de Socrates, qui a été un de mes joueurs préférés et qui, en plus de ça, était quelqu'un d'engagé et ouais, un précurseur, si on peut dire.
Didier Drogba, l'autre actu brûlante, c'est la Ligue des Champions. Votre ancien club, où vous êtes resté une légende, l'OM va jouer ce soir chez le Sporting Lisbonne. Quel est votre regard sur le début de saison de l'Olympique de Marseille?
Ben, je suis content parce qu'ils font un très très bon début de saison et il y a une réaction en Ligue des Champions qui laisse espérer une possible qualification au tour suivant. Ça va pas être un match facile. Jouer contre une équipe portugaise au Portugal est toujours difficile. Mais je pense que physiquement et puis psychologiquement, l'équipe est prête.
L'OM, pendant des années, les supporters, ils ont rêvé de vous voir revenir. Ça a été un feuilleton pendant une décennie.
Oui, malgré moi, très souvent, à des fins budgétaires, ce que j'ai trouvé dommage. Mais voilà, c'est le passé, j'ai pas envie de m'exprimer sur ça. J'étais très, très, très content de revenir à l'OM pour au Vélodrome pour ce match de charité organisé par
les supporters
Orange.
Étaient contents
et les supporters étaient très contents, ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir. Ils ont même fait un geste à la fondation, ce qui est extraordinaire. Donc c'est pour vous dire l'attachement qu'on a les uns envers les autres.
Et est-ce que dans un coin de votre tête vous vous dites, bon bah je suis pas revenu en tant que joueur, mais peut-être qu'à l'avenir, ce n'est pas terminé, en tant que dirigeant, qu'investisseur, peut-être un jour?
Alors j'évite de me projeter comme ça parce que par le passé mon envie m'a poussé à exprimer un désir et puis ça a été interprété, ça a été... Donc j'évite, et puis le jour où ça se fait, bah, tant mieux.
Et
si ça se fait pas, je resterai quand même un supporter marseillais depuis mes 10 ans. Ouais.
Ça veut dire que vous allez regarder PSG-OM ce week-end, ça c'est le match qu'on ne rate jamais sous aucun prétexte, c'est
ça c'est un match à regarder, et encore plus aujourd'hui au vu du classement.
Et l'OM peut aller embêter le PSG, pour vous c'est jouable?
Je pense que l'OM embête déjà le PSG en étant aujourd'hui 3e, mais je suis content parce qu'il n'y a pas que l'OM qui aujourd'hui embête le PSG, on voit Lorient qui se positionne à la deuxième place, ça redonne vraiment un peu de fraîcheur à ce championnat.
Juste un mot du PSG, vous avez été un buteur et on sait que c'est un poste où il faut de l'ego. On parle beaucoup ici en France depuis quelques jours de l'ego de Kylian Mbappé qui ronchonne quelque peu sur son positionnement en club. Avec votre vécu, votre expérience, est-ce qu'il a raison de se faire entendre?
Si aujourd'hui c'était Cristiano qui était dans cette posture-là, personne ne crierait au scandale. Je pense que ce que Mbappé demande, c'est un peu de respect. N'oubliez pas qu'il est jeune, donc des erreurs, des petites erreurs, il va en commettre. Mais il faut être quand même clément avec lui. C'est quelqu'un qui représente la France, c'est quelqu'un qui est champion du monde, qui vous a donné une Coupe du Monde. Je veux dire, à un moment donné, il faut...
Il y a trop de Mbappé bashing pour vous?
Mais c'est normal, c'est aujourd'hui un des meilleurs joueurs au monde, c'est normal et il apprend à vivre avec aussi. Donc après, souvent on s'étonne quand les meilleurs joueurs français partent jouer à l'étranger, on n'est pas content, mais aujourd'hui il y en a un qui a décidé de rester, on lui tombe dessus. Je trouve ça un peu paradoxal.
Didier Drogba, on a commencé avec les favoris du Ballon d'Or, on va terminer cet entretien avec vos favoris pour la Coupe du Monde. C'est dans un peu plus d'un mois, alors ce sera sans votre pays, la Côte d'Ivoire. Je sais que c'est très difficile le jeu des pronostics, mais
c'est très dur.
Qui peut la gagner? Si vous deviez, je sais pas, mettre une pièce ou le Ballon d'Or que vous avez devant vous sur une équipe, vous choisiriez qui?
Je garde ma pièce. Je garde ma pièce. Non, mais vraiment, je suis bien sûr comme tous les Africains, je serai derrière les équipes africaines, derrière le Sénégal en particulier, parce que j'ai vu cette génération naître. J'ai envie de voir jusqu'où ils peuvent aller.
Merci Didier Drogba, vous la légende de l'OM, de Chelsea, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Vous allez présenter lundi la cérémonie de remise du Ballon d'Or qui peut-être, en tout cas nous les Français, on croise les doigts, sacrera Karim Benzema. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur RTL.
Merci.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Et l'info continue dans RTL Soir. Dans quelques secondes, il y aura vos dessous de l'actu. L'Ukraine réclame des armes à la France. Vous allez l'entendre. Nous aidons beaucoup moins Kiev que nos voisins allemands ou britanniques, par exemple. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière un peu de littérature. La fille de Cléopâtre, racontée par Françoise Chandarnagore. A tout de suite, vous écoutez RTL.
Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h. RTL, s'informer ensemble.
Bonne fin de journée, RTL Soir vous accompagne, il est 18h30.
RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
Et donc le rappel des grands titres de l'actualité, les trois infos à retenir en cette fin de journée avec vous Marion Calais.
Les premières réquisitions sont donc tombées sur le site Esso ExxonMobil de Port-Jérôme Gravenchon en Normandie. 4 salariés concernés. Dans les Bouches-du-Rhône, nos deux sites sont bloqués. La CGT prévient, elle appellera à la mobilisation générale à la première réquisition. Grève aussi pour les salaires dans plusieurs centrales nucléaires, notamment la plus grande d'Europe de l'Ouest, celle de Gravelines à partir de demain. Grève aussi au sein du groupe Lubrizol en Seine-Maritime, mouvement de 70 heures voté hier. Une première médaille d'or pour la France au Mondiaux de judo en Ouzbékistan. Roman Diko, 23 ans, sacré tout à l'heure chez les plus de 78 kilos.
Merci Marion. Le temps Peggy pour demain.
Une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne. On aura des pluies dès demain matin entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Elles seront soutenues sur la Bretagne avec du vent. Gris ailleurs, sauf près de la Méditerranée où ce sera encore ensoleillé. Dans l'après-midi, un temps pluvieux et gris sur les trois quarts nord du pays. Ce sera plus sec entre le sud-ouest, la région PACA et les frontières de l'Est, le tout sous des températures encore douces de 16 à 19 au nord et 19 à 24 au sud.
C'est noté, merci Peggy.
RTL Soir, Les dessous de l'actu.
Et les dessous maintenant des livraisons d'armes à l'Ukraine. L'Ukraine qui, ce matin, dans un clip, s'est adressée à la France. Clip diffusé sur les réseaux sociaux. Bonsoir Julien Fetra.
Bonsoir.
Vidéo, comment dire, plutôt décalée pour réclamer des canons.
Oui, dans un Paris sexy, des images de Macron et Zelensky hilar s'intercalent des images du front, les canons César, ceux que la France a livrés à l'Ukraine, les 18 pièces d'artillerie ultra puissantes. L'Ukraine en réclame davantage, 155 mm, écrit en gros la taille du canon au milieu de pétales de rose.
Alors le clip fait sourire, mais il révèle une réalité. Nous aidons moins les Ukrainiens que certains de nos voisins.
Oui, dans tous les classements du nombre d'armes livrées, la France est à la traîne. Les sources varient. Dans certains classements, la France fournit 2% de l'aide totale à l'Ukraine. Parfois, c'est 5%. Mais le constat, lui, ne varie pas. Nous sommes derrière. On gravite entre le 7e et le 13e rang. Derrière la Pologne, derrière la Norvège, le ministère des Armées se défend. Hein. On ne dit pas tout ce qu'on envoie. On m'a répondu, vos classements, c'est du déclaratif. Or, nous, on ne déclare pas tout. Et puis, deux, on livre moins, mais des pièces plus efficaces. Sauf qu'on est aussi derrière l'Allemagne, souvent accusée de tarder à aider les Ukrainiens. Les Allemands viennent de livrer un matériel spectaculaire. Ils portent le doux nom d'Iris, mais c'est un canon bien gros, bien lourd, de défense antiaérienne.
Alors, les Allemands livrent des éléments de défense aérienne. Vous l'avez dit, c'est exactement ce que réclame l'Ukraine depuis des mois. Pourquoi nous, on ne le fait pas? Pourquoi on est encore à la traîne?
Déjà parce que la France a peu de stocks, cela a été un choix. Du matériel qui dort, qu'il faut entretenir, c'est non. La France livre 18 canons César. Quand elle le fait, elle se déleste d'un quart du stock de sa Rolls en matière d'artillerie. Aussi parce que la France marche sur un fil, hein, continue à discuter avec Vladimir Poutine tout en soutenant l'Ukraine. Une position très différente des États-Unis qui assument d'aider massivement. C'est plus de la moitié de l'aide internationale rien que pour les Américains. Pourquoi à la traîne? Aussi parce que certaines armes sont inadaptées. Par exemple, le char Leclerc, Julien. Pourquoi ne donne pas-t-on plus de char Leclerc à l'Ukraine? Parce qu'il est très complexe, parce qu'il faudrait envoyer des techniciens pour la maintenance et ça poserait plus de problèmes que ça, n'en résoudrait.
Les dessous de nos livraisons d'armes à l'Ukraine ce soir avec les explications de Julien Fautra. Merci pour votre expertise.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
18h33.
Laissez-vous tenter dernière.
Et place à la jolie parenthèse du soir. Maintenant, laissez-vous tenter dernière. On va parler littérature. Maintenant, avec notre monsieur littérature, j'ai nommé Bernard Lehu qui nous a rejoint. Bonsoir Bernard.
Bonsoir Bernard.
À vous deux. Vous nous proposez un grand voyage dans le temps à l'occasion de la parution du 4e et dernier volume de La Reine oubliée, fresque historique de Françoise Chandernagor.
Oui, cette reine oubliée, c'est la fille de Cléopâtre, Sélénée, seule survivante de la lignée des Ptolémée après le suicide de sa mère, capturée par les Romains, d'abord traitée comme une quasi-esclave, puis adoptée par la famille impériale, elle deviendra reine à son tour en épousant le roi de Maurétanie, j'ai bien dit Maurétanie, ce qui correspond aujourd'hui au Maroc et à l'Algérie. Mais Sélénée n'oubliera jamais la tragédie de son enfance. Françoise Chandernagor en fait une femme héroïque, mue toute sa vie par un désir de vengeance.
Absolument, c'est le moteur que je lui ai donné. Une enfant qui a 10 ans, qui voit s'écrouler son monde, sa religion, son royaume, sa langue, tout, et qui est assez maltraitée au début à Rome, qui a perdu toute sa famille, elle ne peut se reconstruire que dans la vengeance, que dans l'idée « je me tais, mais vous perdez rien pour attendre ». Et elle ne peut que se dire « un jour il y aura un empire d'Afrique, mes descendants reconquerront l'Égypte et les Romains n'auront plus leur mot à dire, etc. » Mais elle se trompe parce qu'on est à la période de plus grande expansion de l'Empire romain. Il n'a pas encore atteint ses limites.
Alors ce dernier volume, il s'intitule « Le jardin de cendres ». Que nous raconte François Chandernagor?
Eh bien les dernières années de la fille de Cléopâtre, enfin mère d'un héritier prêt à perpétuer la ligne des Ptolémées, mais à Rome, au même moment, un nouvel empereur arrive sur le trône, son nom Caligula, le méchant idéal pour la romancière.
Oh, c'est en or, oui, parce que je crois qu'il, lui, était vraiment fou. Enfin, il était devenu fou. Il était sans doute pas né fou. Mais il a vécu une enfance telle que chez lui, ça a tourné à la dinguerie. Enfin, dès qu'il a pris le pouvoir, on a vu qu'il était fou très, très vite. Tout est fou. D'ailleurs, en 2 ans, il va dépenser à des bêtises tout le magot accumulé par son grand-oncle, qui, lui, était économe, qui gérait bien les deniers de l'État. Il va tout dépenser en 2 ans. Il a plus d'argent. Donc, il va tuer des gens uniquement pour avoir leur argent.
Bah oui, c'est simple. Et puis, figurez-vous que l'on croise aussi, dans ce dernier volume de La Reine oubliée,
Macron.
Ah oui, mais enfin, il existe. Donc, il y a un certain Macron qui, à un moment donné, est le numéro 2 de Tibère, est choisi comme une espèce de premier ministre et qui succède à un certain Séjean. Et tous les deux Séjean comme Macron seront des grands tueurs. Hein, voilà.
Mais qui, toute qui analogie mal, s'arrête là.
Oui, toute analogie. Alors, hein, et puis, ils finissent mal. Hein, je veux dire, Séjean est exécuté et Macron est obligé de se suicider. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de parallèle à faire.
Macron, voilà, le premier ministre, c'est ça.
Macron, le Romain, l'un des personnages donc du Jardin de Cendres, dernier tome de l'épatante série que consacre Françoise Chandernagor à la reine oubliée, Sélénée, la fille de Cléopâtre, c'est à lire aux éditions Albin Michel.
Merci beaucoup pour le conseil lecture, cher Bernard Lehu. La suite dans RTL Soir, c'est dans quelques secondes à peine, on va défaire le monde. Vos 20 minutes d'infos autrement, avec ceux qui sont en train de s'installer, oui. Cyprien Sini, oui. Isabelle Choquet, Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Alors vous les auditeurs qui nous écoutez peut-être via l'autoradio. Vous passez beaucoup de temps en ce moment dans les stations-service. Au fait, ça marche comment une station-service? Où sont les cuves? Comment c'est ravitaillé? On va tout vous expliquer juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.